Je pense que le premier facteur, il vient en partie de l'environnement familial et de là où j'ai grandi.
Ok.
J'ai un père qui a passé sa vie à entreprendre, à créer des boîtes, à avoir beaucoup d'échecs d'ailleurs.
D'accord.
Mais c'est assez intéressant parce que du coup, on voit les échecs, qui rebondissaient, il a eu plusieurs échecs, puis il y a eu quelques réussites aussi à côté. Mais je pense que ça participe énormément à l'envie d'entreprendre. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'en fait, pour le coup, j'ai rien à reprocher à mon boulot d'avant. Je m'amusais bien, ça me plaisait. C'est juste qu'en fait, il y a un moment où j'ai commencé à voir des choses qui me déplaisaient, que j'arrivais pas à résoudre moi dans mon job. Et puis ça a commencé à me titiller, à me titiller. Puis au bout d'un moment, on se dit, bah non, mais en fait, le truc est trop gros, c'est devant moi. Il
Ouais.
y a juste peut-être à lancer quelque chose et enfin, à se lancer entre guillemets. Après, trouver la bonne personne aussi. Bon, on en parlera peut-être après.
Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy de Cotigny, cofondateur de Stockhelp, la première solution anti-gaspi pour les industriels de l'agroalimentaire qui compte une vingtaine de collaborateurs et réalise 3 millions de CA. Salut Tanguy.
Salut Julien.
Alors Tanguy, ensemble aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, notamment de gaspillage alimentaire. Tu vas nous expliquer ce que vous proposez avec Stockhelp. On évoquera ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat, toi qui as une formation d'ingénieur et qui a été directeur supply chain et consultant en stratégie. On parlera de relations entre associés, ce qui fonctionne moins bien. On reviendra sur tes réussites et aussi tes galères entrepreneuriales. On abordera le sujet de la levée de fonds, puisque vous avez levé 3 millions d'euros. D'où tu en es aujourd'hui, de l'ambition pour Stockhelp et puis de comment vous comptez y arriver dans les prochains mois. Ok pour toi?
Ok pour moi, parfait.
Eh bien écoute, on attaque. Première partie, comment t'as fait, toi, pour passer d'un profil ingénieur à entrepreneur dans l'agroalimentaire? Ce qui m'intéresse ici, c'est de prendre un temps pour comprendre qui était le Tanguy plus jeune, qui a construit ses études, sa carrière, et qui un jour s'est dit, tiens, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pour moi.
Ouais, bah écoute, en gros, il y a plusieurs facteurs qui ont déterminé ça. Je pense que le premier facteur, il vient en partie de l'environnement familial et de là où j'ai grandi.
Ok.
J'ai un père qui a passé sa vie à entreprendre, à créer des boîtes, à avoir beaucoup d'échecs d'ailleurs.
D'accord.
Mais c'est assez intéressant parce que du coup, on voit les échecs qui rebondissaient. Il a eu plusieurs échecs, puis il y a eu quelques réussites aussi à côté. Mais je pense que ça participe énormément à l'envie d'entreprendre. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'en fait, pour le coup, j'ai rien à reprocher à mon boulot d'avant. Je m'amusais bien, ça me plaisait. C'est juste qu'en fait, il y a un moment où j'ai commencé à voir des choses qui me déplaisaient, que j'arrivais pas à résoudre moi dans mon job. Et puis ça a commencé à me titiller, à me titiller. Puis au bout d'un moment, on se dit, bah non, mais en fait, le truc est trop gros, c'est devant moi. Il
Ouais.
y a juste peut-être à lancer quelque chose et enfin, à se lancer entre guillemets. Après, trouver la bonne personne aussi. Bon, on en parlera peut-être après.
Bien sûr.
Ou pour le coup, c'est super important. Mais non, du coup, si je résume, pour moi, ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, c'est déjà peut-être espèce d'une petite un environnement familial qui
Ouais,
était
qui
déjà
était
dans l'entrepreneuriat.
propice,
Ouais.
qui t'a finalement, ce qui a infusé en toi, parce que tu l'as vu au quotidien.
C'est exactement ça. Et après, il y a le fait de vouloir faire quelque chose d'un peu nouveau, de résoudre des problèmes que j'avais devant moi et que je pouvais pas résoudre dans ma situation d'employé. J'avais essayé à l'époque dans ma boîte de lancer une espèce de micro-entreprise dans l'entreprise. Bon, j'avais
D'accord.
déjà suffisamment de boulot pour me lancer là-dessus. Et puis après, il y a quelque chose qui c'est peut-être un troisième facteur qui est peut-être un faux facteur, c'est peut-être une envie de liberté en se disant je vais créer ma boîte, je serai libre, j'aurai plus de patron, etc. Bon, dans les faits, c'est pas une situation si confortable que ça d'être
Ouais.
entrepreneur. Donc il y a cette notion de liberté, il y a cette notion de faire un peu ce qu'on veut entre guillemets, mais au bout d'un moment, on est quand même vite rattrapé par la réalité. Et quand la boîte grossit, cette notion de liberté, elle est un peu faussée quand même.
Bah, tu as quand même des parties prenantes, on en parlait sur d'autres épisodes, mais attends, entre les clients, les collaborateurs, les partenaires, etc. En fait, tu as quand même des comptes à rendre à tout le monde, donc tu n'es pas totalement libre à 100%. C'est parce que, voilà, c'est vrai que de l'extérieur, les gens croient souvent ça. Mais c'est un des facteurs qui peut mener à l'entrepreneuriat. Moi, je sais que quand j'ai créé à 23 ans, c'était pour ça, pour être libre notamment. Ok, donc tu disais que tu as eu un exemple entrepreneurial avec ton père qui a eu plusieurs échecs et puis aussi des réussites. Comment t'as pris ça? Parce que t'aurais pu aussi te dire, bon, bah, si je vois que c'est galère, qu'il a galéré, que ça n'a pas marché X fois, t'aurais aussi pu dire tu vois, en disant, c'est pas du tout pour moi, quoi, être complètement rejeter la chose, quoi.
Ouais, c'est un peu l'inverse, que même sur les échecs, au final, je vois qu'en fait, il s'éclatait tout le temps.
D'accord.
Donc, ok, il avait des galères, il avait des échecs, il y a des moments où c'était pas forcément très fun à la maison parce que du coup, bah déjà, lui, il le subissait, il était
Oui.
énervé. Enfin, ça
Ça rejaillit sur tout le monde.
Ah bah, de toute façon, quand on a sa boîte, et ça je le vois avec Stockhelp aujourd'hui, ouais, effectivement, la vie pro et la vie perso, ça commence à se mélanger de plus en plus. Enfin, y a plus trop de distinguo en tout cas. Mais non, je voyais qu'en fait, c'était quelqu'un qui était relativement épanoui, qui, c'est un peu bête, mais qui rayonnait vachement en société parce qu'il parlait de ce qu'il faisait, il parlait même de ses échecs. Hein, y avait plein de choses qui foiraient énormément. Mais il en parlait, et il y avait toujours ce truc qui me titillait dans ces discussions où au final, bah, je sais pas, je l'ai jamais connu dans une boîte, mon père, enfin, j'ai jamais connu comme employé. Ouais. Mais du coup, ça m'attirait vachement d'aller vers ce type de modèle, même si pour le coup, il a jamais eu de réussite fulgurante, hein, mais bon.
Ouais, mais bon, ça t'a donné en tout cas un exemple.
Ouais.
Est-ce que du coup, dans tes études, t'as fait quoi comme études ? Est-ce que t'as fait des choix qui t'ont mené vers du commerce ou pas du tout ?
Un petit peu, j'ai fait une école d'ingé que j'avais faite à l'époque en double diplôme avec Dauphine. Donc d'accord. J'avais fait un diplôme ingé business, sachant qu'en école d'ingé, j'étais en école d'ingé en mécanique. Donc autant dire que ça n'a d'accord. strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et ça me plaisait pas spécialement.
Et pourquoi ingé ? Pourquoi t'étais allé par là ?
Pour le coup, c'était un modèle. C'est un peu comme mes premiers choix professionnels. Je savais pas trop. Je pense que parfois, il faut être honnête, je savais pas trop vers où aller quand j'étais plus jeune. J'étais plus attiré par par la partie scientifique. Donc, je suis allé naturellement vers des études d'ingénieur. Exactement pareil, quand j'ai fini mes études, je savais absolument pas quoi faire en sortie d'études. On m'a dit, bah tiens, fais du conseil, tu vas avoir plein de business différents, tu vas avoir des interlocuteurs différents. Je suis parti faire du conseil en strat parce que je savais pas quoi faire à la sortie de mes études. Donc, je vais pas dire que j'ai fait du conseil en strat parce que j'aimais l'étiquette, Non, je savais pas quoi faire.
Non, mais c'est intéressant, toi, ça dépend vraiment de chaque profil. Certains savent tout de suite qu'ils veulent faire ça, d'autres non, d'autres c'était en eux, puis ça se révèle au fur et à mesure.
C'est ça.
Donc, voilà, donc c'est intéressant. T'es originaire d'où, toi ?
Je suis lyonnais.
Lyonnais, d'accord. Donc, pas parisien à la base ?
Pas parisien, mais ici depuis 15 ans, quasi. Donc,
t'as commencé à. Enfin, tu connais bien la ville. Ok, donc tu commences. Donc tu fais ce double cursus. Tu commences ta carrière donc, dans le conseil en stratégie. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là ? Est-ce que ça t'a aidé pour monter ensuite une boîte ou alors pas du tout ? T'es passé au travers comme ça ?
Ça aide vachement. En fait, il y a un truc qui est absolument génial dans le conseil, même si c'est perçu par beaucoup de monde comme un métier un peu old school. Déjà, c'est la diversité des missions. On va être amené à travailler sur à peu près tout et n'importe quoi. Il y a un truc qui peut paraître bête, mais j'ai fait énormément de missions de restructuration.
D'accord.
Des missions de restructuration, quand on monte une boîte, ça devient très important. Parce qu'on parle de restructuration sur, on peut parler du business model, on peut parler du BP, etc. Mais on parle aussi de restructuration humaine. C'est un des trucs qui est moins drôle dans l'entrepreneuriat, mais on est amené à recruter, on est aussi amené à séparer de pas mal de personnes. C'est pas drôle, mais quand on l'a déjà fait dans un métier d'avant, ça facilite quand même un peu les choses. Donc il y a ça, il y a le fait de toucher à plein d'industries, d'avoir des interlocuteurs qui sont vachement différents, et ça pour le coup, c'est la vie de tous les jours quand on monte une boîte, mais on va être amené à déjà tout faire. Comme type de boulot, autant les trucs ultra administratifs que les trucs très stratégiques, et parler à n'importe qui en termes de personnes. Et ça, pour le coup, on le fait dans le conseil, où surtout que moi, j'étais sur des missions d'excellence opérationnelle tournées très vers l'industrie. Donc, on va être amené à travailler avec des personnes qui sont sur des lignes de production, avec des personnes qui sont dans des bureaux d'études, avec des directions générales, avec des PDG de gros groupes. Et il faut mixer tous ces gens, les comprendre, assimiler les infos à droite à gauche. Et du coup, ça sert énormément quand on monte une boîte.
Ce moment-là, tu es en début de carrière, donc tu n'as pas d'expérience.
Un peu d'expérience.
T'as quoi ? T'as 23, 24, 25 ans ?
Ouais, c'est ça, 23 ans, je sors d'études, j'ai fait deux stages dans des choses qui n'ont rien à voir, je suis passionné d'horlogerie, donc j'ai fait mes premiers stages en horlogerie en Suisse, donc vraiment je connaissais pas ce milieu-là, idéalement d'ailleurs j'ai cherché pas mal du temps de boulot pour aller dans l'horlogerie, au final j'ai jamais rebossé dans l'horlogerie, mais c'est pas très grave.
Encore, peut-être un jour.
Ouais, c'est plus... je garde la passion pour les montres et pas forcément pour retravailler dans l'horlogerie.
Ouais. Ok, donc tu commences avec cette mission-là. Finalement, en plus du cursus que tu as suivi, ça t'apporte quand même une première expérience de vue 360 d'une entreprise, de comment ça se gère ou comment ça pivote, en tout cas, parce que tu parles de restructuration.
Ouais.
Et ça, pour toi, ça a été structurant ou pas pour la suite ?
Ça a été structurant, ça m'a apporté énormément pour le début de Stockhelp, enfin même actuellement. Il y a d'autres choses aussi qui servent énormément, c'est que quand on est consultant, on arrive avec une vision très extérieure dans une boîte, on analyse beaucoup et on fait aussi des plans d'action. Donc quand on est interne dans une boîte déjà bien structurée, ça sert peut-être un peu moins. Par contre, quand on monte une boîte, c'est toujours super, super important d'arriver à sortir la tête de l'eau, d'essayer de regarder, parce que parfois on est happé par le quotidien, on commence à faire plein de choses, puis au final, on ne fait plus forcément ce qu'il faut. Et c'est super important d'arriver à ressortir la tête, ce qu'on fait dans le conseil au final, d'essayer d'analyser, de rationaliser un peu les choses et de se remettre sur des plans d'action un peu plus viables. Donc ça, pour le coup, c'est super utile.
Ok, ça, plus j'imagine des méthodes, des matrices ou des outils en tout cas qui te permettent de structurer.
Ouais, y a... alors on était un petit cabinet donc on n'utilisait pas toutes les grosses méthodes qu'on peut utiliser chez Mac ou BCG, etc. Mmh. Mais au final on fait exactement pareil. Mais oui, il y a plein de petites méthodes. Moi j'étais surtout que, en fait, le fil conducteur de toute ma carrière, ça reste quand même l'industrie. Mmh. Là actuellement je suis dans l'agroalimentaire, mais je faisais que de l'industrie lourde dans le conseil. J'étais majoritairement dans l'aéronautique, dans les énergies. Et en fait, on appliquait des méthodes propres à l'industrie, mais qui peuvent s'utiliser très facilement dans le, bah, dans une boîte comme on a, comme j'ai aujourd'hui, de, qui est très tech. Et au final, c'est les mêmes méthodologies pour suivre la performance, pour suivre les équipes, pour organiser les équipes, etc. En fait, tout fonctionne pareil. C'est juste qu'il faut l'adapter à la structure et à la taille de la boîte.
Ok, donc super aidant, j'entends.
Assez aidant.
Pour se lancer. Ouais. Derrière ça, t'as quoi comme, comme expérience?
Alors, j'ai fait ça pendant quelques années, avec un petit détail aussi qui est super important, mais quand on se lance et qu'on veut faire une boîte avec une dimension un peu internationale, le conseil a aussi beaucoup aidé, parce que du coup, j'ai quasiment jamais bossé en France.
D'accord.
Donc, c'était plutôt sympa d'avoir cette vision de comment on travaille un peu dans chaque pays, même si c'était en Europe, c'est pas très loin. Mais du coup, ça a aidé. Et après, je suis parti dans l'agroalimentaire que je connaissais absolument pas. Pour le coup, j'avais jamais bossé là-dedans. Mes études n'avaient aucun rapport avec avec ce milieu-là. J'ai été débauché quand j'étais dans le conseil.
D'accord.
Pour me retrouver directeur des opérations dans une PME qui fait des soupes. Donc vraiment, mais strictement rien à voir avec tout ce que je connaissais. Mais je trouvais ça ultra attirant. En fait, alors l'agroalimentaire, je connaissais pas trop, mais je suis plutôt passionné de bouffe, donc ça m'intéressait. En l'occurrence, c'est une boîte en plus qui fait plutôt bien les choses. Dans l'agro, qui a des bons produits, qui utilise des bonnes matières. Et puis le poste était, pour le coup, là, ça se rapproche progressivement de mon envie d'entreprendre. Ouais. En fait, je suis passé d'un cabinet de conseil où j'étais dans des très gros groupes à gérer. Il y avait des centaines de personnes qui bossaient autour de nous dans les boîtes où on intervenait, voire des milliers de personnes. Et me retrouver dans une TPE, PME, où on était, quand j'ai rejoint, 6-7.
Ah oui.
Donc vraiment toute petite boîte, mais qui tournait déjà, pour le coup, pas du tout une start-up, une TPE qui tourne bien, mais avec une liberté totale sur le poste et tout à construire, en tout cas côté ops, ce qui m'intéressait vachement et qui a commencé à faire émerger l'envie d'entreprendre.
C'est un peu d'intrapreneuriat, en tout cas de structuration interne à faire.
Ouais, tout à fait.
Et là, ça t'a plu? Ça t'a donné le goût de l'entrepreneuriat ou...
Alors ça a commencé à me donner le goût, parce que du coup je suis arrivé, on m'a filé les clés de la partie opération, on m'a dit il y a tout à structurer, la relation avec les usines, toute la gestion du PNL, la gestion de la supply, etc. Donc oui, non, c'était super. Il y avait tout à créer, par contre on se retrouve toujours bloqué à un moment parce que on bosse pour quelqu'un, c'est logique, on fait pas ce qu'on veut, heureusement. Donc ça m'a donné l'envie, je pense que ça a allumé la petite flamme du début, et puis après Stockhelp, c'était la suite logique, quoi.
Et alors comment est venue l'idée justement de Stockhelp? Comment tu passes de ce poste à entrepreneur et tu montes ta boîte?
Ouais, alors c'est directement lié à ce job-là, pour le coup, et pas celui d'avant, dans l'agro. En fait, dans mon métier, j'étais amené à gérer toute la partie achat de matières premières, gestion des stocks, etc., gestion des usines. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir tous les enjeux qui sont liés aux achats de matières premières quand on est un industriel dans l'agro, sachant que c'est plutôt logique, mais en fait, tout ce qu'on achète dans l'agro, c'est des matières avec des dates de péremption.
Ah oui.
Donc il y a des vrais enjeux de gestion stock derrière. Au-delà du gaspillage, il y a des enjeux financiers qui sont énormes, parce qu'à partir du moment où on se plante, ça coûte très cher. Donc c'est ce que j'ai découvert. Moi, avant, dans mes autres métiers, il y avait des enjeux de gestion de stock, mais c'était plus des enjeux de BFR, c'était pas des enjeux de périssabilité.
Et donc plus trésorerie que en soi.
Exactement. Là, il y a les deux. Il y a de la périssabilité, pas évident à dire, et des enjeux financiers qui sont directement liés. Et en fait, ce que j'ai découvert dans cette industrie et qui a commencé à me paraître un petit peu étonnant avec le temps, c'est que on peut avoir malheureusement deux types de problèmes. Ça va être soit de la rupture, soit du surstock. Mm-hmm. Rupture, c'est j'ai pas assez acheté, donc je peux pas produire. Mm-hmm. Surstock, c'est j'ai trop acheté parce que mes prévisions n'étaient pas forcément bonnes, ou que j'ai eu un aléa de prod, ou que bref, on peut avoir trop acheté. Et du coup, je sais pas quoi faire de ce que j'ai sur les bras. Donc après, si on refocus le truc sur les ruptures, en soi, il n'y a rien à faire à part mieux gérer ses stocks. Sur les surstocks, le gros souci, c'est qu'en fait, on peut avoir deux types de surstocks. On peut avoir des surstocks qu'on appelle de fin de chaîne, qui sont les produits finis. Typiquement, moi, je produis des soupes, mais sur stock de fin de chaîne, c'était des briques de soupe.
D'accord,
ouais. On peut avoir des surstocks de début de chaîne, qui sont mes matières premières, qui sont les légumes pour produire cette soupe. Sur ces deux problèmes, il y a deux solutions différentes. Sur stock de fin de chaîne, les produits finis, en soi, c'est pas très bien d'en avoir, mais ça se gère plutôt facilement. Déjà parce qu'on peut faire du don. Nous, on donnait tout à l'époque au Resto du Cœur. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est aussi super intéressant hein, financièrement, puisqu'on peut défiscaliser. Et après, il y a plein de solutions qui existent. Il va y avoir des Phoenix, des Too Good To Go, nous, anti-gaspi, etc., qui savent retraiter ce genre de produits.
Il y a aussi de la destruction, non ?
Très, très peu, et de moins en moins avec les lois AGEC et Egalim, etc. Donc, sur les produits finis, il n'y a quasi pas de destruction. Par contre, côté matières premières, là, c'est flou total. Moi, les premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivé dans l'industrie, et c'est là où ça a commencé à allumer un peu, à enclencher l'idée, c'est que, en fait, je me retrouve avec des surstocks. Il y a mon usine qui m'appelle, qui me dit, écoute, Tanguy, j'ai 15 tonnes de courgettes surgelées. On utilise beaucoup de surgelées dans le sucre agroalimentaire, quasiment que ça, ou du sec, mais très peu de frais. J'ai 15 tonnes de courgettes surgelées sur les bras. Elles sont dans les stocks depuis 6 mois. Ça me coûte super cher à stocker. J'ai besoin de place. Donc, en fait, si tu me trouves pas une solution d'ici une semaine, on les met en destruction. Et là, au début, je commence à en parler, je me dis, c'est stupide, on ne va pas détruire ça. Vrai. Puis tout le monde me dit, t'inquiète, c'est budgété, tous les ans, on a un petit peu de... En fait, c'est anodin à l'échelle de la boîte.
Ça reste à la marge par rapport...
C'est exactement, on passe pas non plus notre temps à cramer des stocks, heureusement. Mais du coup, il y a ce premier truc où je me dis, c'est quand même dommage, détruisons-les, de toute façon, j'ai pas le choix, il me faut de la place. Puis ça arrive une deuxième fois, puis ça arrive une troisième fois, puis t'en parles avec quelqu'un d'autre à côté, il te dit, ouais, moi aussi, j'en ai de temps en temps. Puis en fait, au bout d'un moment, on prend du recul, on se dit, mais moi, tout ce que j'achète, c'est standard. Dans l'industrie, on a des produits qui sont faits à façon, donc du sur mesure, et on a des produits qui sont standards. Moi, j'achetais que du standard, pour le coup.
Donc tout le monde peut le. Enfin, d'autres en tout cas pouvaient le.
On est des centaines d'industriels en Europe à acheter, enfin dans le monde, mais en Europe en l'occurrence, à acheter exactement les mêmes produits. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, j'ai des produits standards sur les bras. Si moi, j'en ai pas besoin, il y a forcément quelqu'un qui en a besoin ailleurs. Et j'ai commencé cette petite démarche dans ma boîte à me dire, je vais essayer de contacter, de me faire un petit réseau d'industriels. Puis quand j'ai des trucs sur les bras, je leur propose. Et puis au final, j'en ai parlé à 2-3 industriels à côté. Je crois que la première vente que j'avais faite à l'époque, c'était sur de l'avocat. Mais c'était même pas une vente d'ailleurs. En fait, je leur proposais juste mes stocks et ils payaient le transport.
Ok. Oui, donc en plus, c'était faire.
Le but, c'était que moi, je paye pas des frais de destruction. Parce que quand on détruit, on paye. Il y a cette logique.
C'est un coût aussi.
Et que du coup, je ne paye pas de frais de destruction et que j'évite de détruire tout simplement parce que c'est stupide. Et puis c'est né comme ça, j'ai vendu des stocks de nourriture, des stocks non alimentaires aussi sur des emballages, etc. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à en discuter, le truc a commencé à me passionner un peu. J'en discutais quand j'allais faire des salons pro et choses comme ça, j'en parlais avec des industriels. Et ils me remontaient tous la même chose, on a des stocks, enfin on a des surstocks, on sait pas quoi en faire et on incinère tout parce qu'en fait, on n'a pas le temps de les traiter autrement. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même stupide, ce qui manque, c'est le lien entre les industriels pour se dire, quand j'ai un truc sur les bras, est-ce que je peux le poser quelque part pour qu'un autre industriel vienne le récupérer ou vienne l'acheter, quoi.
Et ça n'existait pas.
Ça n'existait pas. Il y a des réseaux historiques de brokers qui existent. Mmh. On va avoir des brokers qui sont... C'est des métiers assez... Enfin, l'industrie agro, c'est un milieu qui a très peu évolué, d'accord, en tout cas sur le sourcing de matières premières, depuis des décennies. Donc aujourd'hui, on fonctionne encore très à l'ancienne avec des appels d'offres classiques, etc. C'est tout très manuel. Et du coup, ce genre de problématique de surstock, c'est souvent pris en charge par des brokers un peu indépendants qui vont être spécialisés sur une typologie de matière. Je pense qu'on va avoir un broker spécialisé dans la vente de canards, par exemple, et qui va connaître un peu tous les mecs en France qui font du canard. Et puis à chaque fois qu'un mec a un surstock, il va l'appeler. Et puis lui, il va dire, ok, je vais essayer de le refiler à droite à gauche. Mais du coup, c'est un milieu très ancien, très opaque. Il n'y a pas de réseau et qui est basé sur des carnets d'adresses, quoi.
D'accord.
Donc, si on ne connaît pas la bonne personne au bon moment, généralement, c'est trop tard, on finit par détruire ses stocks.
Donc là, tu testes l'idée sur les salons, tes rencontres, tu vois qu'il y a quelque chose. Mais c'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis « Ok, je passe le cap et je quitte mon job et je me lance ?»
Je pense que le déclic, il s'est fait... Il s'est fait assez naturellement. Alors, il y a eu un déclic assez triste qui était le décès de mon père à l'époque. Cette personne qui m'a donné envie d'entreprendre. Et en fait, j'étais dans les. C'était très bien, je bossais dans la soupe, etc. Mais il y a un moment où je me suis dit, je m'ennuie un peu, en fait. Donc, je pense que ça a fait un. Ça a activé un truc où je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui. C'est un peu bizarre à dire, mais qui lui aurait plu.
Dommage, en tout cas.
C'est ça. Et puis ça faisait quelques mois que, en fait, mon job, je l'avais fait. J'avais optimisé mes process, ça tournait bien. Je commençais un peu à tourner en rond.
Et puis, si tu avais de la bande passante pour cette idée, l'énergie ou autre, c'est peut-être que sur le quotidien, tu avais déjà... Enfin, tu t'ennuyais, mais en tout cas, tu avais déjà optimisé. Donc, tu avais le temps de regarder ailleurs. Et donc, ça te permettait aussi de te dire, peut-être que j'ai besoin de passer à autre chose, là où j'ai de l'énergie.
Exactement. Donc, il y a eu ce déclic-là. Il y a un autre déclic, du coup, qui est comme mon cofondateur aussi,
Alors, c'est qui? Tu l'as rencontré comment?
Ouais, bah justement, ça fait partie du déclic. William, en fait, c'était mon collègue dans mon ancienne boîte.
D'accord.
Qui était, lui, il est resté,
Ou dans les soupes?
Non, lui, il est dans les soupes.
Ok.
Lui, il a bossé là-bas pendant 11 ans comme directeur commercial. Donc, il connaît aussi très bien le monde de l'agro. Il a cette casquette commerciale que moi, j'ai pas personnellement. Enfin, c'est pas là où je suis très bon et c'est pas ce qui m'intéresse le plus en plus dans le boulot. Et on a bossé avec William pendant 4 ans et demi, 5 ans dans un petit box tous les deux en face à face.
D'accord.
Sur des métiers ultra complémentaires qui sont les ops et le commerce, où généralement quand le commerce va bien, moi ça me tiraille et ça allait pas, et de l'autre côté quand moi j'essaye d'optimiser les ops, bah ça fait chier le commerce. Donc on a appris à bosser ensemble et à être sur des sujets plutôt... J'allais pas dire, enfin, il y a des sujets complémentaires et des sujets aussi aux opposés, mais en tout cas, on a appris à bosser ensemble, à être collègues avant d'être amis. Et il y a eu ce déclic aussi au moment où William, il avait envie d'entreprendre, mais il cherchait aussi quelqu'un, potentiellement la bonne personne. Moi, je commençais à le pousser de plus en plus. Et puis, il y a un moment où, en fait, on avait, je pense, les deux bonnes personnes pour y aller. Et on s'est dit, bon, allez, go, on y va. Et puis... on avance, on verra bien.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on regarde un peu les associés, est-ce qu'ils sont complémentaires, pas complémentaires, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils sont en famille, est-ce que c'est des potes. Mais ce que je mets dans le livre, justement, comment tu as fait, c'est dans les questions à se poser, c'est est-ce que vous avez testé une période à bosser ensemble? Est-ce que ça match, tu vois? Parce que derrière, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est une sorte de mariage quelque part. En tout cas, tu vas bosser un an, deux ans, dix ans, 15 ans avec ton associé. Et donc, si tu sais travailler avec la personne, c'est compliqué. Donc, vous, en fait, vous avez eu cette chance finalement dans ton entreprise précédente, de dire, OK, bon, bah, pendant 3, 4, 5 ans, on a bossé ensemble, on se connaît, on peut y aller, quoi.
Mais c'est un conseil qui est énorme aux gens qui veulent monter une boîte. J'ai beaucoup hésité à monter des boîtes avec des potes. J'en ai pas mal parlé à des amis, etc. Maintenant, avec le recul, je suis persuadé que c'est une très mauvaise idée. En tout cas, que c'est pas une mauvaise idée, ça peut marcher, mais c'est très risqué.
Oui, parce que t'as autre chose à perdre que juste la relation de travail.
Ouais, puis en fait, on sait pas bosser avec ses potes. On a jamais bossé avec ses potes. Enfin, logiquement. En tout cas, moi, j'ai jamais bossé avec mes potes. Du coup. Là, on est quand même sur une relation où ce qui est génial, en fait, avec William, c'est que on sait se dire les choses quand ça va pas. Et ça, c'est super important quand on est associé. Mais on se froisse pas, quoi. S'il y a un truc qui nous embête, que ce soit lui ou moi, on se le dit. Et puis, on est des grandes personnes, on s'est bossé ensemble, donc on agit en conséquence. Je pense que ça, avec un pote, c'est vachement plus dur. On le voit, nous, dans notre environnement, mais il y a plein de boîtes qui périclitent parce qu'en fait, le couple n'a pas marché.
Ouais.
Et après, il y a d'autres choses qui fonctionnent pas mal, c'est de s'associer avec des personnes qu'on connaît absolument pas, mais qui ont des intérêts, enfin, qui peuvent avoir des intérêts communs et tout, mais pareil, c'est super risqué. Je pense que le meilleur combo, c'est vraiment d'être avec une personne avec qui on sait bosser et en fait... Puis là, en plus, on est potes derrière. Au final, on boit peut-être moins de bière qu'avant depuis qu'on a monté la boîte. Mais on est potes, donc on sait bosser ensemble. Enfin, on est potes, donc on s'entend bien. Et on est d'anciens collègues, donc on sait bosser ensemble.
Tu dis, on en parlait, alors lui de pousser, toi tu le poussais. Et finalement, on s'est dit, c'est le bon moment. Ce momentum qui s'est passé, c'était, il correspondait à quoi en termes de contexte familial ou environnemental autour de toi à ce moment-là? Est-ce que tu as déjà, je sais pas... foyer, des enfants, etc., et des risques à prendre, ou est-ce que non, t'es encore libre? Enfin voilà, ça c'est une vraie question aussi.
Alors, moi j'ai pas d'enfants, j'étais dans une situation qui était plutôt confortable, enfin on avait acheté notre appart avec ma compagne, mais ça, enfin, on a des dettes, mais c'est pas très grave. On est quand même en France, dans un pays où je trouve on a beau se plaindre, mais pour entreprendre, en tout cas les premières années d'entrepreneuriat, c'est quand même du luxe quand on vient d'une société. On a le droit,
vous avez droit aux 2 ans de chômage.
Ouais, exactement. Ouais, okay. On était les cobayes de la dégressivité. Mais on n'est pas là pour parler de politique. Mais du coup, non, il y a quand même cette période-là qui est géniale où on peut avoir le chômage, monter sa boîte, prendre absolument aucun risque financier en fait. Parce que il y a plein d'aides, il y a plein d'accompagnements, des prêts d'honneur, etc. Donc de ce côté-là, ça va. Pour William, le pari était un peu plus risqué. Lui, pour le coup, il avait déjà un fils avec des responsabilités qui sont un petit peu plus grosses et des besoins aussi financiers qui sont un peu plus élevés. Mais on l'a pris quand même et on avait suffisamment travaillé avant pour avoir cotisé suffisamment et pour pouvoir se lancer et se dire, de toute façon, on sait très bien, c'est une aventure. On s'était fixé une échéance. On s'était dit, si on a lancé la boîte en été 2021, on s'était dit, si à la fin de l'année, on n'a pas fait de vente, on n'a pas fait une seule vente, on arrête. On a fait une vente le 30 décembre.
Non, mais c'est intéressant, toi, ce que tu dis, parce que tu as beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui disent « on verra ». Mais on verra, mais en fait, à partir de quand tu sais que ce point de passage-là te valide ou pas le fait que tu continues ou te fasses t'arrêter. Toi, moi, j'ai lancé ma boîte à 23 ans, j'avais pas eu toute cette réflexion-là, mais on s'était dit avec Max, mon associé, en fait, on se donne un an. Et si au bout d'un an, on s'estime satisfait, on continue, on voit que ça prend, ou sinon, on fait que des petites missions à gauche, à droite, bon, on arrêtera, et puis point barre, on aura appris. Donc vous avez quand même eu cette démarche où, ok, bon, bah, on a cette situation, finalement, vous prenez peu de risques, comme tu dis. Donc ça, c'est intéressant et merci la France pour ça. Et derrière, ok, bon, bah, à cette date-là, il faut qu'on ait fait ça. Et donc, vous avez fait la vente, tu dis, sur le gong.
Ouais, bon, je t'avoue que si on l'avait faite après, on aurait quand même continué.
Ouais, mais t'es plus à une semaine près à ce moment-là. Mais, ok, et du coup, c'est là, ça a validé, vous dites, on continue. Est-ce que vous changez de braquet à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe après?
Non, en soi, on avait... En fait, ce qui a été ultra rassurant et qui est assez triste, c'est quand on a lancé l'activité, on l'a lancé en plein début du conflit en Ukraine.
D'accord.
Et c'est un truc qui est super important, mais tu as ton momentum dans la création de la boîte où, qui va jouer. Il y a une, enfin, moi, je crois beaucoup en la chance. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un gros facteur. Enfin, c'est vrai de dire ça, c'est pas un facteur chance, la guerre, mais il y a eu quelque chose qui a fait que en fait, notre solution est devenue légitime sur le marché. Il y a déjà des solutions à peu près similaires qui avaient émergé des années avant. Ça a fait un flop total. Hein.
D'accord.
Et là, en fait.
Tu avais analysé pourquoi ?
On a parlé, en fait, on a rencontré notamment une personne qui avait monté une boîte un peu similaire. Et lui, ce qu'il nous avait dit, c'est j'ai essayé de me diversifier trop tôt, de partir un peu de tous les côtés. Et du coup, en fait, on n'a jamais réussi à se spécialiser, à être référent sur une typologie de produits ou de business pour avancer. Et cette diversification les a tués. Et après, il y avait une question de moment. En fait, on peut arriver sur un marché et dire on a un truc révolutionnaire qui va vous changer vos habitudes de faire. Bah en fait, si les clients en face, ils en ont pas besoin, bah c'est très bien, notre truc elle est révolutionnaire, mais elle va rester au placard quoi. Nous, on est arrivé sur le marché dans un moment qui était assez critique parce que on a lancé la boîte au même moment, il y a le début du conflit en Ukraine. Aujourd'hui, toutes les matières premières qui sont vendues en Europe, elles viennent, enfin en tout cas sur les matières premières végétales, il y a une grosse partie qui vient des pays de l'Est.
D'accord.
À côté de ça, il y a quand même le Covid accessoirement qui coupait tous les approvisionnements qui venaient d'Asie. Et nous, on arrive sur le marché des matières premières en disant, bah écoutez, nous, on a des matières premières qui sont dispo tout de suite, qui sont moins chères, qui sont en plus sur des sites de production potentiellement plus proches des vôtres. Pendant qu'en même temps, les acheteurs, ils étaient en train de se taper des énormes périodes de rupture et d'inflation sur toutes les matières. Enfin là, c'était même pas de l'inflation, c'est qu'en fait, ils n'arrivaient plus à s'approvisionner. Ouais. Donc on est arrivé sur le marché et on a réussi à faire des ventes relativement rapidement. Je pense que ça nous a conforté en se disant ouais, c'est cool, ça a l'air de marcher, donc faut y aller maintenant. On l'aurait, enfin, je sais pas, on peut pas, pas de boule de cristal, mais à mon avis, deux ans plus tôt, ça aurait peut-être pas eu le même démarrage.
Ok, bah écoute, on va creuser ça en détail. Avant, j'ai deux questions. La première, c'est sur la répartition des rôles et du capital quand vous lancez. Comment vous faites pour déterminer ça? Et ma deuxième question, on va commencer par celle-là pour ta réponse, c'est pourquoi StockHelp? Ça veut dire quoi?
StockHelp,
ouais.
Ouais, c'est une décision prise au bar, ça. Enfin, bon, de toute façon, on bossait que au bar au début, on n'avait pas de bureau. Au café. Non, c'était juste un... Pour avoir toute l'histoire, on a essayé un peu tous les mots, où au début, bah, justement, ce qu'on ne fait absolument pas aujourd'hui, on voulait une boîte qui soit multi-industrie.
D'accord.
Donc on s'était dit, il y a ça dans l'industrie, mais en fait, c'est propre à toutes les industries, donc on veut un nom généraliste qui peut rassembler à peu près toutes les personnes qui ont des galères de stock.
Ok.
StockHelp. Okay. En l'occurrence, on va sur Internet, le stock avec... parce que StockHelp, c'est écrit sans C, sans H. Si tu veux, la vraie raison, c'est juste que les autres noms de domaine étaient pris.
Mais c'est une vraie... Enfin, toi, moi, non, avec BuzzNation, on fait des noms, on crée des noms, on fait du naming. En fait, c'est une réalité aujourd'hui entre tout ce qui est déjà déposé, les noms de domaine qui sont plus dispo, alors que le nom l'est. Enfin, c'est une tannée aujourd'hui pour créer. Donc, je comprends tout à fait que tu changes un peu la manière d'écrire.
C'est ça. Puis on trouvait le nom plus court, c'était sympa. Il y a pas de...
Ok, donc... StockHelp vient de là. Pour la partie rôle et associé, comment vous faites à ce moment-là? Parce que j'ai l'impression que William, il est un peu plus âgé que toi.
William, ouais, a 4 ans de plus que moi.
D'accord.
Ça va, on s'en sort quand même, ouais, on arrive à communiquer.
C'est une génération quand même.
En fait, au début, on n'a pas défini de rôle.
D'accord.
Au début, de toute façon, la seule chose qu'il fallait faire, c'était faire du business. Enfin, nous, c'est ce qu'on s'était mis en tête. Donc, en fait, on était tous les deux commerciaux pour la boîte. De toute façon, quand on s'est lancé, on vient pas de la tech, donc on n'avait pas de tech, pas de product, encore moins d'employés. Donc, en fait, on s'était dit, faut aller chercher des clients, faut montrer que ça marche.
Et vous vendiez quoi, du coup? à ce moment-là?
Alors au début, on a fait un faux site rempli de fausses annonces, donc on vendait rien. mais on allait surtout chercher des clients pour récupérer leur stock.
D'accord. Okay.
Donc on est allé chercher des clients, récupérer leur stock, on les mettait sur un site qu'on avait fait nous-mêmes. Et au début, nos jobs étaient à peu près les mêmes. On se répartissait des contacts, on les appelait, on passait nos journées en fait à faire de la prospection tous les deux.
D'accord.
Et à commencer à se mettre des semblants de process, des semblants d'outils en place. Dès qu'on commence à avoir 2-3 personnes qui nous mettent des stocks, il faut forcément commencer à monter un peu les prémices de la boîte. Et en fait, c'est là où je rebondis encore sur l'importance de son associé, mais c'est la répartition des rôles s'est faite ultra naturellement derrière. Parce que du coup, on avait déjà bossé ensemble sur deux rôles qui sont complémentaires. Et au fur et à mesure où la boîte a grossi, William a pris la partie commerciale. Et moi j'ai pris tout le reste. Mmh. La seule chose que je connaissais absolument pas et que j'ai prise à ma charge, c'est la partie tech. Mais sinon, le reste, c'était déjà mon boulot d'avant de faire de la partie financière, la partie ops, etc. Quoi.
D'accord. Ok. Et comment vous répartissez les parts à ce moment-là? Vous faites 50-50, vous faites différemment? Vous faites en fonction des apports de chacun? Comment vous gérez?
50-50. On a mis pareil dans la boîte et on a fait 50-50.
D'accord.
Où en fait, on s'est dit, il n'y a pas de... On a le même investissement dans la boîte, on est tous les deux dans la boîte à 100%, y a pas de... On a eu des discussions là, sur les dernières levées de fonds où t'as toujours des invests qui veulent répartir, qu'il y ait une répartition qui soit pas... c'est pas qu'ils veulent pas que ce soit équitable, mais ils veulent toujours qu'il y ait quelqu'un d'un peu plus majoritaire.
Et éviter les situations de blocage en fait.
Ouais, pour l'instant on est toujours à 50-50.
D'accord.
En fait on se dit qu'on a une implication qui est similaire dans la boîte, qu'on a une charge de travail et un apport, une valeur ajoutée pour la boîte qui est la même. Chacun sur nos catégories. Moi, je sais que ce que fait William, je sais pas le faire. Mmh. Inversement, je pense. Donc,
okay.
Non, on reste à 50-50.
Bon, très bien. Écoute, merci pour cette première partie. On passe à la seconde. Comment tu as fait pour te faire une place sur le marché français? Donc, on a vu au début, vous avez commencé, vous êtes tous les deux commerciaux. Enfin, vous allez chercher du stock pour après pouvoir le revendre. Vous êtes une solution tech, tu l'as dit, aucun de vous deux n'est tech.
Ouais.
Comment vous structurez le départ là? Parce que pour que ça prenne, il faut arriver à combiner un peu tout ça. Est-ce que vous avez une feuille de route d'ailleurs ou... Bon, je crois avoir la réponse. Mais comment ça se passe les débuts?
En fait, on est sur une industrie, et je l'ai déjà dit, qui est assez old school et où le réseau fonctionne énormément. Donc on a cette chance de venir de l'agro, d'avoir... toujours un peu bête de dire ça, mais en cumulé, on a à peu près 20 ans d'expérience dans l'agroalimentaire, tous les deux.
Okay.
J'ai pas bossé aussi longtemps que ça dans l'agro. Et on a du coup beaucoup de connaissances. Donc en fait, nos premiers clients, c'est nos copains.
C'est les contacts que vous avez déjà, avec qui vous avez travaillé.
C'est les partenaires industriels qu'on avait à l'époque, qu'on a convaincus, qu'on allait voir, qui nous ont mis les premiers stocks, qui nous ont acheté les premiers stocks aussi. En gros, la place, elle s'est faite, je dirais, par le réseau et les connaissances. C'est un milieu qui est très, très dur à pénétrer si on connaît personne. Pourtant, c'est la plus grosse industrie du monde, hein, l'industrie agro. Mais c'est des personnes, si on parle de choses qu'on connaît, les acheteurs qui sont nos clients, la plupart, ils ne sont pas sur LinkedIn. C'est des boîtes qui sont toutes dans des zones industrielles. Donc dans des zones, enfin c'est pas des boîtes accessibles facilement et qui en plus qu'on connaît pas forcément. Aujourd'hui il y a plein de marques qui sont vendues, on sait pas quelle est l'usine qui fabrique ça. Donc si on connaît pas ce milieu, c'est déjà très dur de pénétrer. Donc la première chose pour se développer, c'était d'avoir du réseau, d'y aller un peu au forceps, enfin d'aller voir les personnes qu'on connaît, puis de prendre des rendez-vous. C'est des personnes qui aiment bien se voir en physique, donc il faut prendre une bagnole et puis aller les voir quand on n'a pas le choix. Bagnole ou vélo, peu importe, mais il faut prendre quelque chose pour aller les rencontrer sur place. Donc ça, c'est la première chose qui a permis d'accélérer. On n'a pas du tout pensé tech au début, au produit. On a vraiment pensé que business, en se disant on mettra du produit et de la tech. Pour moi, c'est de l'investissement, c'est de la R&D, c'est quelque chose qui vient dans un second temps. Donc on s'était dit, le plus gros investissement à faire au début pour que ça se lance, c'est le commerce. Et on a fait ça dans nos premiers recrutements aussi. Pour le coup, je pense que c'était assez stratégique, c'est qu'on s'est dit, si on veut que ça accélère sur ce type d'industrie, mais ça c'est vraiment propre à notre industrie, ou en tout cas peut-être à l'industrie en règle générale.
D'accord.
Je pense que dans d'autres milieux, ça fonctionne pas, mais nous, vu que c'est un milieu assez old school avec des acheteurs et un réseau qui fonctionne énormément au bouche à oreille et à la confiance, on s'est dit, il faut qu'on ait des gens comme ça chez nous. Donc on a recruté que des anciens traders agroalimentaires ou des anciens brokers agroalimentaires avec une expérience, avec un réseau. Et en fait, on demandait à ces gens de venir chez nous avec aussi leur carnet d'adresses, leur savoir sur le négoce de matière, etc. Et comme ça, on a alimenté notre base de données clients au fur et à mesure avec cette première couche de sales qu'on a recruté.
Comment tu fais pour les convaincre à ce moment-là? Parce que t'as pas levé de fonds encore.
Alors ça, le premier recrutement s'est fait post-levée de fonds.
D'accord.
Ouais. Okay. Non, en fait, on a levé extrêmement tôt. On a créé la boîte en septembre et on a fait notre première levée de fonds en février.
Ah oui, donc 5 mois après, quoi.
Ouais.
Ouais, très rapide.
Mais en fait, on est parti faire notre première levée de fonds. On avait déjà du chiffre qui tournait. Mmh. On avait commencé à faire nos premières ventes. On avait recruté un premier mec en tech qu'on finançait avec des prêts d'honneur qu'on avait eu dans notre premier incubateur. Et du coup, on avait déjà un prémisse de produit et un chiffre qui tournait. Donc, on a levé... dans le monde des startups, c'est quand même assez rare d'arriver déjà avec des chiffres après 6 mois. Et là, pour le coup, on est arrivé, on avait déjà des chiffres. On a levé en 3 semaines, on avait fait notre première levée de fonds, qui était une petite levée de fonds, mais qui nous a permis de recruter la première couche.
En quelques centaines de milliers.
Ouais, 500 000 euros.
Ouais. Ouais. Ouais, donc ça te permet de financer, enfin d'aller attirer des profils expérimentés, parce que sinon tu peux pas te payer ce genre de profil, quoi.
C'est ça. Puis on a une activité qui, je pense, est assez sexy. En fait, les premiers recrutements qu'on a fait, c'était les premiers clients de la plateforme.
D'accord.
Qui sont arrivés, qui sont, pour le coup, qu'on connaissait pas, qui sont arrivés sur la plateforme. Et quand on a commencé à chercher des gens, ils ont dit, j'ai l'exemple de Claire, là, dans la boîte, qui a été la première commerciale qu'on a recrutée et qui était une de nos premières clientes sur la plateforme.
D'accord.
Et qui aujourd'hui encore chez nous.
Ouais, donc je sens qu'il y a quand même du sens et un engagement derrière, parce que tu disais c'était un pain point que tu avais identifié dans le secteur. Outre le fait que ce soit stupide et que cette nourriture elle peut être mangée par d'autres personnes, il y a aussi un coût économique, enfin il y a un impact environnemental, il y a plein de choses derrière. Et donc il y a ça peut-être qui a motivé aussi ces profils-là, parce qu'ils prennent un risque de partir d'une boîte industrielle qui est stable, pérenne, traditionnelle, qui a des moyens et qui part dans une start-up tech qui vient de commencer.
Ah mais c'est incroyable hein, les profils. Et on a encore aujourd'hui des gens qui postulent chez nous, qui sont des clients ou des gens qu'on connaît ou qu'on a prospecté côté commerce. Et la boîte attire énormément parce qu'en fait, l'agro, c'est un milieu qui passionne. Généralement, c'est un métier de passionné. Les gens, même dans les usines, hein, c'est des gens qui sont passionnés par leur boulot. Par contre, c'est vrai que s'ils voient une solution qui existe et qui fait les choses mieux... Ah, ça leur donne envie. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu le cas de Stockhelp où j'ai l'impression, en tout cas, qu'on galère moins à recruter côté sales que côté tech. Côté commerce, on arrive à avoir des profils de personnes qu'on n'aurait pas projeté dans des boîtes un peu tech et qui sont super contentes de venir bosser chez nous, quoi.
Ok.
Donc, c'était la première chose qui, en tout cas, a accéléré et permis à Stockhelp de se répandre un peu, en tout cas, sur le marché français.
Tu vois, quand moi, j'ai créé ma boîte, on m'avait donné ce conseil-là. On m'avait dit, commence par recruter des profils commerciaux. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas assez mature pour le prendre, ce conseil, et me dire « Attends, en fait, moi, j'adore ça, j'ai des idées, je vais les vendre à mes clients. Ouais. Non, j'ai besoin de profils qui vont produire après ces idées-là. » Et j'ai mis longtemps avant de recruter un profil commercial qui, moi, me déchargeait déjà de cette dimension-là, puis en même temps, permettait de grandir. Et vous, c'est intéressant d'avoir fait ce choix dès le départ, de dire « On va d'abord privilégier le commerce, et ça va nous permettre de financer la suite ou de recruter ou de passer à l'étape d'après. » Donc intéressant. Et après, bon, évidemment, ça dépend des activités, ça dépend des cycles de vie de l'entreprise, mais voilà, ça me faisait penser à ça. Ok, donc vous avez levé, vous avez recruté les premiers profils plutôt commerciaux.
Ouais.
La tech, tu dis, vous avez un semblant de produit. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là, le prototype tech que vous avez ?
Moi, on avait un mixte entre 2-3 bouts de code, un site en no-code qui était branché là-dessus et du coup un CRM à côté qui faisait tourner à peu près la quasi-totalité du business. D'accord. Et on faisait du bricolage entre les trucs avec des liaisons API pour que ça tourne.
D'accord.
Ça c'était vraiment les prémices et cette première levée de fonds elle nous a aussi permis de recruter notre premier CTO qui lui est arrivé en fait avec pour objectif de pas de monter une marketplace ou pas de monter une solution de négoce de matières premières, mais de, en tout cas, automatiser la partie commerciale. Donc, d'accord, toujours dans cette logique commerciale. Et le but, c'était de se dire, OK, on a un métier qui est ultra archaïque de négoce, quoi, de matières premières. Même si c'est du surstock, etc., ça reste du négoce de matières premières à l'ancienne. Donc nous, notre job maintenant, c'est d'essayer d'automatiser tout ça pour que justement pas avoir 15 personnes en ADV, mais avoir personne en ADV et que tout soit fait automatiquement et qu'on garde en gros des commerciaux que là où ils ont de la valeur ajoutée, qui est sur le négoce et qui n'est pas sur de l'édition de documents, etc., sur de la perte de temps, sur de la prospection et tout. Donc on a une autre premier CTO et le premier produit qu'on a construit, en fait, c'est un truc qu'on a encore, c'est un espèce de CRM interne qui nous permet de gérer du négoce sur la plateforme.
Ok.
Donc c'est la première chose qu'on a faite et ça a été le premier déclencheur de l'accélération de l'activité pour le coup.
Donc ça c'est la V1.
Ouais.
Vous grandissez avec cette V1.
On grandit pas mal avec cette V1. En fait, à partir du moment où on a recruté les premiers sales et on a commencé à automatiser les ventes, il y a la machine qui s'est un peu emballée.
D'accord.
Où, au début, en fait, on était limité par des listes Excel et nos téléphones, quoi. Et à partir du moment où on a enclenché ça, en fait, si on rentre vraiment dans le détail, ce que nous on a fait, c'est qu'on a pris des. En gros, notre métier, c'est de récolter des annonces et de trouver la bonne personne en face. avec des clients qui ne vont pas chercher leurs produits sur Internet. Donc on s'est dit, pour rentrer chez eux, il faut rentrer via leur boîte mail ou via leur téléphone. Et pour ne pas passer pour des spammers, il faut qu'on envoie à chaque fois le bon produit à la bonne personne. Donc en fait, on a fait un énorme boulot au début avec chaque client de se dire, on va aller récolter à la mano tous les produits qu'il peut acheter. Et à chaque fois qu'on va avoir un produit qui rentre, à nous de faire le petit algo qui fait que bah, j'ai mon produit qui rentre, il part directement chez Jean-Yves, chez Mylène et chez je sais pas qui achète cette typologie de produits. Et en fait, ça s'est accéléré comme ça. Au début, bah, on a 2-3 annonces, ça part. Au moment où on a commencé à lancer l'automatisation, je me souviens très bien avec William, on a envoyé les premières alertes comme ça. Et là, on s'est dit, mais attends, on a envoyé le truc. Je pense qu'on a eu 3 offres dans la journée. On s'est dit, mais c'est n'importe quoi. On a mis 4 mois à faire 2 ventes. Mmh. Et là, on a 3 offres dans la journée juste parce qu'on arrive à redispatcher le truc. Et la machine s'est un peu emballée où on était passé de, je sais pas, on faisait 5-6 000 euros de volume de... Enfin, en fait, on faisait rien, quoi, en vente par mois. Et là, on est passé en 5 mois, on est passé à 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Ça a commencé à tourner. Et on s'est dit, bon, bah, cette partie, en tout cas, aujourd'hui, c'est notre bébé, on en parle tous les jours, c'est gestion des alertes et gestion des intérêts de nos clients, c'est ça qui fait tourner la boîte, quoi. Bref, c'est pas que ça, hein, mais c'est ça qui a en tout cas lancé l'accélération et c'est là-dessus qu'on avait mis tous les efforts en tech à l'époque.
D'accord. Donc, ça, tu dis, c'était le début, c'est ce qui a permis de lancer la croissance. Aujourd'hui, StockHelp, c'est quoi ? C'est quoi l'offre que vous avez ? C'est quoi le modèle économique ? Comment vous gagnez l'argent ? Parce que tu parles de volume d'affaires, donc volume d'affaires, j'imagine, ça comprend le coût de la matière première.
Ouais.
Donc vous, votre marge, votre chiffre, c'est pas ça en soi. Mais voilà, comment vous gagnez l'argent aujourd'hui ? C'est quoi le modèle de StockHelp et la version aujourd'hui tech en fait ?
Ouais, alors aujourd'hui du coup, si on parle, peut-être commencer par la version tech du coup et aller vers la rémunération derrière. La version tech aujourd'hui, il y a toujours ce produit initial qui est le produit de matching entre les produits et les clients. À ça, évidemment, on a rajouté une interface client qui est le site qu'on peut voir quand on va se balader sur stockhelp.com, qui permet à nos clients qu'on a réussi quand même un minimum à digitaliser, parce qu'aujourd'hui ils utilisent la plateforme, c'est là où ils déposent toutes leurs annonces, c'est là où ils gèrent tous leurs achats. D'accord. Là où ils gèrent toute leur documentation aussi, parce qu'on intègre plein de services sur la plateforme.
Donc c'est plus qu'un système d'alerte aujourd'hui, largement.
Le système d'alerte, c'est un des modules
de fonctionnalités,
ouais,
en fait.
C'est ça. Et du coup, ils ont leur site où ils gèrent leurs annonces, ils gèrent le négoce, ils font les offres aussi sur la plateforme. Donc aujourd'hui, c'est ça qui... l'environnement StockHelp, c'est ça. Ça va être amené à énormément évoluer dans les mois qui arrivent, mais pour l'instant, c'est ça. Avec nous, tout notre outil du coup qu'on a fait évoluer au fur et à mesure, où au début c'était juste un petit outil de négoce, et aujourd'hui c'est un peu plus, c'est un outil qui nous permet de communiquer avec tous nos prestataires logistiques pour leur filer les ordres en transport. C'est un outil qui permet de gérer la facturation, de gérer du crédit.
Est-ce que vous êtes aussi tiers de confiance quelque part, ou c'est vous qui facturez, ou après c'est les deux entités qui se facturent?
Non, on fonctionne, c'est là pour le coup où on a une grosse différence entre une marketplace et une plateforme de trading, c'est que nous on est plateforme de trading. Donc en fait, tout ce qui transite sur la plateforme est acheté par StockHelp au moment où c'est vendu.
D'accord. Okay.
Au début, ce choix, c'était une contrainte parce qu'on a eu des clients grands comptes qui sont rentrés sur la plateforme et qui nous ont dit, vous êtes gentils, mais en fait, moi, j'ai ça à vendre. Par contre, je veux pas commencer à créer 20 comptes clients. Donc, je vous le vends à StockHelp et puis vous vous démerdez. On s'est dit, ok, mais ça veut dire qu'il nous faut quand même un peu de BFR parce qu'à chaque fois, on va devoir acheter. Puis en fait, on s'est dit, on n'a pas besoin de BFR parce que si on achète au moment où c'est vendu, au final, flux se recroisent et on est en BFR négatif. Et puis au final, c'est plutôt pas mal parce que côté client, ça veut dire que nous, on peut rentrer chez eux en étant référencé comme fournisseur. Et c'est très bien pour la suite de StockHelp. Et du coup, non, on fonctionne, on n'est pas un intermédiaire, on est vraiment le fournisseur de matières premières. D'accord. C'est juste que le stock transite jamais chez nous. Et ça, c'est intégré, heureusement, c'est intégré aussi dans notre produit tech et ça se fait de manière totalement automatique.
C'est intéressant de voir la différence avec une marketplace parce que on le voit notamment sur des marchés où il y en a qui cherchent à être les tiers de confiance avec l'assurance, avec toutes ces choses-là. Tu as parlé quand même de crédit, c'est-à-dire vous faites ça aussi ou pas ?
On est en train de le mettre en place là. On lance une solution de crédit sur la plateforme qui permet, parce qu'en fait on parle de, c'est des très gros montants qui sont négociés, le panier moyen est aux alentours des 10 000 euros, mais on peut avoir des transactions qui montent jusqu'à 50, 100 000 euros sur la plateforme, et nous ce qu'on commence à proposer à nos clients c'est de leur dire, quand tu vends, on peut te payer sous 48 heures, ça te coûtera un tout petit peu plus cher, mais ça t'évite d'attendre 30 jours pour avoir ton cash. Et de la même manière, on peut te proposer à un acheteur de lui dire, au lieu de payer sous 30 jours, ce que tu fais d'habitude quand tu achètes des matières, tu les payes sur 60, voire un peu plus. Ça te coûtera un petit peu d'argent, mais en fait, ça te permet de faire rentrer tes produits, de les transformer, de les revendre et de payer après, ce qui est quand même pas mal en termes de BFR.
Oui, donc pour toi, ça te fait aussi des pourcentages par-ci par-là aussi qui sont gagnés quand.
Ça fait des petits leviers d'augmentation de chiffres. Alors on s'adosse à. Nous, on n'est pas un organisme bancaire, donc on le fait pas. On s'adosse à une boîte qui le fait avec nous. Mais non, c'est pour nos clients, en tout cas, c'est du pain béni. En tout cas, quand on connaît le tissu industriel, c'est beaucoup de PME. Mmh. En France et même en Europe, enfin, 90% de PME. On n'est pas dans un milieu où le cash circule énormément. Donc, si on peut aller gratter un petit peu, bah, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Mmh. Et okay. Ça permet d'arriver sur le modèle de rémunération.
Vas-y, je t'en prie.
Question-réponse.
C'est quoi ton modèle de rémunération? Dis-moi, Tanguy.
Et non, sur le modèle, pour le coup, on est sur un modèle de rémunération ultra basique. En tout cas, pour l'instant, on est en train de changer tout ça. Mais on a un modèle de rémunération à la marge.
D'accord.
Qui est une marge, on a des grilles en fait en fonction de la typologie de produit et de la quantité, enfin du prix, et du coup on va venir appliquer une commission qui est liée à ces deux facteurs et qui s'étale grosso modo entre 3 et 25%.
D'accord. Et aujourd'hui avec cette marge ou cette commission, aujourd'hui vous êtes rentable parce que vous avez levé 3 millions au total, vous êtes rentable?
Non, on n'est pas rentable. On était, et c'est le truc qui est super, enfin en tout cas, on est super fiers avec William, quand on a clôturé notre seconde levée de fonds, on était arrivé à un palier d'équilibre.
D'accord.
La boîte était toute petite, on était 7, mais on était, on était 7 employés avec du coup des profils relativement seniors et on cramait 10 000 euros par mois.
D'accord.
Donc on était vraiment, on le touchait. Là du coup on a refait une levée de fonds, on réinvestit beaucoup massivement sur la tech. Donc là non, là on est clairement
avant,
pas rentable.
Avant de voir les effets, ça va prendre.
C'est ça. Mais on cherche une rentabilité relativement rapide parce qu'on voudrait être rentable d'ici 2025, mi-2025, on a un objectif de rentabilité.
D'accord. Ok. Oui, donc ça va arriver finalement très vite.
Exactement.
Ok, tu as quelques chiffres à nous partager, parce qu'on parlait depuis tout à l'heure de gaspillage alimentaire, on parlait beaucoup de la partie économique, mais sur les constats que vous avez faits, ça représente quoi aujourd'hui, tu vois, en termes de chiffres, de tonnes, pour se rendre compte de l'impact que a Stockhelp aussi sur ce marché.
À l'échelle européenne, tu as à peu près 4 millions de tonnes de matières premières qui sont détruites chaque année.
Millions de tonnes.
Ouais, c'est colossal. C'est colossal. Tu peux distinguer plein de choses dans ce qui est détruit. Il y a du déchet. Donc ça, pour le coup, il y a plein de méthodes pour essayer de le revaloriser, mais ça va plus concerner du coproduit, en l'occurrence. Ça, c'est pas notre métier. On sait pas le faire. Nous, on revalorise vraiment que des choses qui sont encore consommables, qui sont ces 4 millions de tonnes. Et c'est en fait là où c'est un peu révoltant, c'est que quand on parle de déchets, bon, c'est pas cool de les détruire, enfin c'est du déchet quoi, donc c'est juste une conséquence de la production. Là on parle de choses nous qui sont détruites massivement alors que c'est des produits qui pourraient encore être consommés.
Ouais, c'est pas encore des déchets en fait.
C'est pas des déchets, c'est encore consommable. On parle en plus dans l'industrie, c'est ce que je disais au tout début, on est sur des produits soit surgelés soit secs. Donc même si on atteint la fin de ce qu'on appelle la DDM, en fait on peut les reprolonger parce que c'est des choses qui sont stockées à moins 40 degrés, enfin c'est ultra stabilisé. On parle pas d'un congélateur à la maison. Donc en fait, on peut refaire des analyses, etc. et on peut les remettre dans des cycles de vie de production. Donc non, en termes de quantité, c'est colossal. Nous, on a pour ambition d'essayer de revaloriser à peu près la moitié de ça sur la plateforme d'ici 4-5 ans. En fait, les ambitions, on va un peu plus loin aujourd'hui. Ça, c'était le premier pitch de la boîte. Aujourd'hui, ça va bien plus loin que ça, mais... Dans les faits, on ne peut pas se permettre de détruire autant de matière dans un contexte où déjà les résultats de production agricole sont de pire en pire. C'est de plus en plus dur de sortir des choses de la terre. On doit réduire la consommation sur les protéines avec la viande et les poissons. Là, à côté de ça, on continue de détruire des stocks de poissons, des stocks de viande, alors que c'est déjà sur le marché. Enfin, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est un truc qui est totalement logique et qu'on fait tout ça à la maison. C'est qu'on se dit, regardons ce qu'on a dans le placard avant d'aller faire des courses. C'est pareil dans l'industrie, quoi. Regarde ce qu'il y a sur le marché avant d'aller acheter des nouvelles choses, quoi.
Ok. Bon, écoute, de belles ambitions et on va en parler. Juste avant, j'aimerais te demander, c'est une question que je pose à chaque entrepreneur, parce que autant on connaît des réussites, mais on a aussi des galères. C'est quoi la plus grosse galère que tu as connue avec Stockhelp, là dans ton expérience entrepreneuriale, et puis comment tu as fait pour la surmonter?
Ouais, on en a eu plusieurs. Alors, on a de la chance pour l'instant, ça. Mais l'aventure se passe plutôt bien. Je dirais que les plus grosses galères, c'est les galères RH. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est super dur de recruter. C'est super dur de recruter les bonnes personnes. On s'est planté pas mal de fois. Et je pense que là-dessus, il faut prendre beaucoup de hauteur, à un moment se dire qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire, et s'entourer des personnes qui savent recruter. C'est un vrai métier. Hein. Et ça, en fait, quand on est une petite boîte, ça peut vite nous amener dans le mur. Donc il y a toutes ces galères de recrutement où franchement on a fait des belles bourdes avec William. On n'a pas su dire non trop vite.
Ouais, ou stop. Ou
stop trop vite, ouais. En fait, c'était un des premiers trucs, mais à partir du moment où on a un doute, il faut s'arrêter, quoi. Enfin, surtout quand on a des pertes, quand on est au tout début de l'aventure, qu'un recrutement, ça peut nous couler la boîte. Il faut faire gaffe, il faut toujours prendre son temps, etc. Sur le recrutement, en tout cas pour la première souche qui va nous entourer, c'est super important. Donc ça, pour moi, c'est clairement les plus grosses galères qu'on a eues et qu'on peut encore avoir. C'est la partie RH où je trouve que c'est vraiment très dur et très ingrat comme tâche. C'est génial parce qu'on trouve des personnes qui sont incroyables. Et ça, pour le coup, on le sent finalement assez vite. Et à côté de ça, on se plante aussi de temps en temps et ça peut faire mal. Alors là, on s'est amélioré quand même. Mais au tout début, ouais, c'était compliqué.
Ok, bon, bah écoute, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'entrepreneurs et ça reste les humains, les hommes avec un grand H qui font la valeur dans l'entreprise et donc c'est pas toujours très simple à gérer, je comprends. On arrive doucement vers la fin de l'épisode, ça passe déjà super vite, mais quelle est l'ambition, tu as commencé à en parler, pour Stockhelp dans les prochaines années et comment vous comptez y arriver? Donc là, tu dis, vous avez déjà levé, vous êtes en train d'investir sur la partie tech. C'est quoi? C'est la France, c'est l'Europe, c'est le monde, c'est quoi la suite pour toi? Et surtout, tu parlais de plan d'action tout à l'heure dans ton expérience de consultant en stratégie. C'est quoi le plan d'action pour y arriver, en tout cas les jalons que tu as pu poser?
Ouais, en fait, c'est très intéressant. On est parti d'une solution de surstock, et ça fait un peu partie de toute notre réflexion avec William, pour aller vers une solution globale de sourcing. L'idée, en fait, l'ambition de Stockhelp, si on synthétise en quelques mots qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est de proposer une solution de sourcing responsable pour l'industrie agroalimentaire. Mmh. En gros, d'être la seule, ou en tout cas leader, en étant une solution de sourcing responsable. Du sourcing responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait pas que du surstock, qu'on ne fait pas que du sourcing, qu'on propose en gros à un industriel de lui gérer l'intégralité de ses achats de matières premières. C'est quand même le plus gros marché du monde, le marché de la matière première agroalimentaire. Nous, ce qu'on veut proposer via la plateforme, c'est de dire à un industriel, tu nous files ta liste de courses. Nous, on se charge de trouver toutes tes matières premières. C'est juste qu'on le fait dans une dynamique qui est intelligente et responsable, dans le sens où tu vas me donner ton appel d'offres, ta liste de courses. Nous, on va aller te chercher tout ce qui est déjà disponible sur le marché, ça s'appelle du surstock. Donc, c'est déjà notre métier. Et dès qu'on n'a plus de surstock, on va aller te proposer de sourcer tes matières chez les fournisseurs qui sont référencés chez nous, chez lesquels tu vas pouvoir acheter des matières premières qui sont adaptées à tes rythmes de production. Aujourd'hui, une des plus grosses raisons du surstock, c'est de se dire qu'on achète souvent des matières dans des quantités trop élevées par rapport à son cycle de production, mais parce que c'est des minima qui sont imposés par les fournisseurs. Donc, on va lui proposer les bons minimums de commandes avec des fournisseurs plus proches de chez lui pour limiter son empreinte carbone et du coup, lui offrir aussi de l'achat qu'on appelle multifactoriel, c'est de lui proposer un achat avec de l'empreinte carbone, avec du prix, avec de la distance, etc. Et pas que motivé par le coût de la matière. Donc, l'idée, c'est de se dire, on est rentré dans cette industrie en venant résoudre un problème qui était le surstock. Par contre, on ne le résout pas en fait aujourd'hui, le problème du surstock, on vient mettre un petit pansement dessus, mais ce n'est pas en vendant des surstocks qu'on enlève les surstocks. En fait, on essaie juste de contourner un truc qui ne fonctionne pas bien, mais si aujourd'hui on a des surstocks, c'est qu'en fait, on ne sait pas forcément bien acheter, ou en tout cas, on ne sait plus bien acheter des matières premières. Donc l'idée et l'ambition de Stockhelp, c'est de se dire, on veut détruire ce problème de surstock, en proposant des solutions de sourcing qui sont plus responsables. Et c'est ce qu'on...
Traiter la conséquence, mais la cause du problème.
C'est ça. Remonter à la cause. Et c'est ce qu'on a lancé. Là, cette année, la levée de fonds était en partie dédiée à ça, au développement de la tech et au lancement de cette activité de sourcing de matières premières qu'on commence à faire. Parce qu'en fait, on a reçu aujourd'hui nos premiers appels d'offres d'industriels. Et on commence à répondre à des appels d'offres. Et on est en train de switcher aussi, du coup, tout le business model de la boîte. Et ça, c'est des trucs qui sont super excitants.
Bon, un gros sujet là, des beaux pivots.
Beaux pivots.
Quand tu parles de modèle économique, t'as répété à plusieurs reprises appel d'offres. Alors, appel d'offres, moi, ça m'amène plein de warnings en disant c'est long, c'est administratif, il y a la concurrence, etc. Je me dis, en face, on a des denrées périssables. Comment ça se passe ça? Moi, je pensais que c'était, bah tiens, en fait, là, c'est pour demain, quoi. Là, j'ai besoin de ça. En face, ouais. Je sais pas, mon stock de courgettes, il tient 3 jours. Il me le faut vite. Comment tu gères la temporalité là-dedans?
Ouais, t'as 2 types d'achats dans l'industrie. Mais ça, c'est propre à quasiment toutes les industries. C'est pas que propre. D'accord. À l'industrie agro. Tu vas faire de l'achat spot ou de l'achat sous contrat.
D'accord.
L'achat spot, c'est ce qu'on fait actuellement sur la plateforme. C'est je viens, je suis un industriel, je vois un stock de 10 tonnes de cabillaud, j'achète mes 10 tonnes de cabillaud. Basta, enfin terminé, okay. Et on se facture comme ça. Ça, c'est l'achat spot. L'achat sous contrat, c'est de l'achat qui fonctionne sous forme d'appel d'offres. Donc, d'accord. C'est comme dans la mode, ça va fonctionner par saisonnalité. On va faire son appel d'offres printemps-été, son appel d'offres auto-hiver, par exemple. Okay. Et on va, en gros, un industriel va faire son appel d'offres, donc il va envoyer sa liste de besoins à tous ses fournisseurs. Typiquement aujourd'hui il le fait par mail, donc il va envoyer à ses 300-400 fournisseurs ses besoins en termes de matière, tous ses fournisseurs se positionnent et après à lui de faire son équilibrage en fonction des matières qu'il veut. Nous ce qu'on propose aujourd'hui sur la plateforme c'est qu'il envoie pas son appel d'offres à ses 300 fournisseurs, il envoie son appel d'offres à Stockhelp et nous on lui ventile sur tous nos fournisseurs et on lui repropose du coup un dispatch qui est plus intelligent.
D'accord, okay.
Donc c'est ça un appel d'offres. Effectivement, tu as des contraintes bien plus grosses que sur de l'achat spot parce que ça veut dire que tu as des contrats qui doivent être encadrés, des contrats cadres, que tu dois respecter des notions de délai, des notions de quantité, des notions de disponibilité, que tu peux avoir des peines, enfin
des pénalités.
Des pénalités, etc. Ouais.
Et les fournisseurs, ils ne vous voient pas comme. Enfin, ils vous voient comment les fournisseurs, parce que d'un côté, ils pourraient dire, bah mince, on est en lien direct avec le client, là maintenant, il y a Stockhelp qui entre, on ne sait pas comment ils répartissent ou autre, comment vous gérez ça?
En fait, les fournisseurs nous voient d'une manière très, très positive parce que nous, on est une force supplétive de commerciale.
D'accord, ouais.
Donc, en fait, il faut avoir en tête que dans ce marché, les fournisseurs sont très rarement en contact direct avec les industriels. Généralement, okay. Il y a des brokers ou des intermédiaires au milieu, enfin un broker, un intermédiaire. Si moi, je suis un industriel, je vais demander à mon broker ou à mon grossiste de me trouver des matières premières. Lui-même, il va aller demander, je sais pas, à son agent qui est en Pologne, à son agent qui est en Espagne, à son agent qui est en Italie, d'aller trouver des matières. Lui-même va redemander à un agent local ou régional. Et on se retrouve avec une espèce de superposition de commissions. Et nous, sur la plateforme, aujourd'hui, on vient proposer à des industriels d'être en relation directe avec les fournisseurs de matières premières, de supprimer cet échelon de brokerage au milieu.
D'intermédiation.
Qui en plus, c'est éthiquement parlant, ça me paraît complètement stupide. On est dans un milieu où les producteurs transformateurs n'arrivent pas à se rémunérer et où par contre, on a une multitude d'intermédiaires qui se rémunèrent derrière.
Et c'est eux qui ajoutent la marge et la valeur. Ouais. C'est eux qui captent la valeur en fait du produit. Quoi.
Alors que si on doit redispatcher la valeur quelque part, pour moi, c'est en début de chaîne et c'est pas sur des intermédiaires. Et c'est aussi pour ça qu'on change le business model de la plateforme, où là on veut passer sur une plateforme qui est pour le coup sans commission, en se basant juste sur de l'abonnement pour l'industriel. Donc on va lui dire, tu nous fournis ton appel d'offres, en fonction de la taille de ton appel d'offres, nous on va te proposer un abonnement, et on va s'engager à te faire réduire tes coûts, etc. Mais du coup, tu n'auras plus de commission entre le fournisseur et toi.
Et ça, vous l'avez déjà testé ou pas? Parce que
c'est en cours.
Ouais.
Ouais. Okay. On a nos premiers bêta testeurs.
Pour vous, c'est favorable l'abonnement parce que ça crée la récurrence et parce que il y a moins d'efforts commerciaux à terme. Mais enfin, peut-être pas, oui. Mais pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. On sait que les grands comptes, eux, ils aiment moins ces solutions-là. En tout cas, ils sont peut-être plus réticents, même si ça tend à bouger. Vous avez déjà donc ça, c'est en test en ce moment.
C'est en cours de test. On a nos premiers clients dessus qui sont en fait. C'est très pratique d'aller convaincre des clients avec qui on bosse déjà.
Ouais.
Parce que là, on a déjà des bons clients, on va les voir, on leur dit, bah, je sais pas, on t'a pris 100 000 euros de com l'année dernière, bah, en fait, on te propose de payer pareil en abonnement et on va te doubler tes achats. Donc, logiquement, si on n'arrive pas à le vendre, c'est qu'on n'est pas bon, quoi.
Ouais.
On verra.
Ok, bah écoute, on suivra et tout ce qu'on vous souhaite, c'est que ça marche pour vous, pour l'entreprise, pour ton aventure entrepreneuriale, mais aussi parce qu'on voit que c'est important pour la planète et les hommes. Il va être temps de conclure. Pour ça, il me reste trois questions à te poser. La première, c'est ça veut dire quoi pour toi, du coup, entreprendre ou être entrepreneur? Alors, tu l'as vu avec ton père, tu l'expérimentes toi. Tu mettrais quoi derrière ça?
C'est, je vais rebondir sur un des premiers trucs, mais c'est être libre, mais c'est aussi prendre des risques, et c'est, pour le coup, c'est le point moins positif, mais c'est aussi faire des sacrifices, je pense qu'on peut difficilement, alors on entend tous les discours, mais je serais curieux d'en savoir plus, mais entreprendre, c'est aussi faire beaucoup de, enfin, c'est énormément d'abnégation, et c'est on a besoin, en tout cas, les premières années, d'avoir un focus quasiment à 100% là-dessus, et c'est pas forcément facile. Donc c'est aussi ça, entreprendre, mais c'est ce qui permet justement d'être libre et de faire un truc qui nous plaît en fait.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aller dans l'entrepreneuriat, il y a plein de raisons. Elles sont plus ou moins bonnes, ça dépend de chacun, mais pas penser que c'est si simple que ça. C'est aussi ça que j'essaie de faire avec le podcast, c'est d'arriver à rendre compte de ce que c'est que l'entrepreneuriat, avec ses hauts, ses bas, mais que ça demande de l'implication. Et on parlait tout à l'heure de situation familiale quand tu t'es lancé, mais la réalité, c'est qu'effectivement, quand tu lances une entreprise, ça a un impact aussi sur le foyer. C'est ce que je mets dans le livre, hein, c'est bien se poser des questions. La liste des questions à se poser quand on veut se lancer, c'est est-ce que mon conjoint, ma conjointe est prêt à ce que j'investisse du temps, de l'énergie, de la charge mentale,
de l'argent
aussi évidemment, alors que en même temps faut faire avancer la famille quoi.
Ouais, exactement.
Ok, très bien. Toi qui as vécu l'expérience du podcast, comment t'as fait? Quel entrepreneur que tu connais, au masculin ou au féminin, et avec qui tu pourrais me mettre en contact, tu me recommanderais d'inviter ici?
Alors c'est ça. J'ai quelqu'un moi qui m'a pas mal inspiré, mais que tu connais peut-être d'ailleurs, qui est en plus un de nos investisseurs aujourd'hui, mais qui s'appelle Nicolas Douet, qui était le fondateur de Keldoc à l'époque, et qui est, pour l'anecdote, c'est lui qui était à l'initiative de notre premier système d'alerte qu'on avait bricolé à l'époque sur HubSpot. Et on l'avait, enfin, c'est pas lui qui est à l'initiative, mais on l'avait monté avec lui et il nous avait aidé à bricoler le truc à l'époque. D'accord. Et c'est un peu le truc qui avait activé un peu au début. Et c'est un mec que je trouve, en fait, il arrive à prendre beaucoup de recul sur les choses. Sinon, je suis en train de le saucer comme ça en live. Mais il prend beaucoup de recul sur les sujets. Je trouve qu'il arrive à rentrer extrêmement dans l'opérationnel et en même temps avoir ce recul qui est super intéressant. Et ça fait quelques temps que j'ai pas de news, mais c'est un gars que je trouve assez inspirant et qui en plus avait une belle réussite. Keldoc, c'était le concurrent d'Octolib à l'époque.
Bah écoute, si tu peux le mettre en relation, avec grand plaisir, je l'inviterai et le recevrai s'il veut bien venir. Un mot de la fin, un conseil, un truc que tu veux partager à ceux qui entreprennent ou qui voudraient le faire?
Ouais, un truc bullshit qui est de se dire qu'il ne faut pas lâcher, ouais. Ou qu'il faut savoir lâcher. C'est peut-être le faux conseil, mais il faut savoir lâcher. Non, le plus gros conseil, c'est toujours d'arriver à prendre du recul et de ne pas se noyer dans l'opérationnel. Je pense qu'on l'a fait. En fait, on s'en rend très très vite compte, surtout quand la boîte grossit. Se noyer dans l'opérationnel, c'est on se retrouve vite en fait avec un chiffre qui stagne et avec plus rien qui se passe. Et c'est le pire truc qui peut arriver. Donc, il faut savoir s'entourer de personnes qui est déléguées aux personnes pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Et ça, typiquement, on se retrouve souvent avec William la tête dedans. Et parfois, on relève la tête, on se fait putain, il est passé 4 mois, quoi, on n'a rien fait. Ouais. Et non, il faut toujours essayer de respirer. Et c'est super important, du coup, de très bien s'entourer. Et typiquement, d'avoir des personnes. Nous, on a un no board member qui est Baptiste Corvel, qui était un des fondateurs de Phoenix, et qui est un peu cette personne qui, si on prend l'image, qui nous tire la tête de l'eau. On se parle une fois par semaine, et une fois par semaine, on essaye de prendre de la hauteur sur tous les sujets en cours et tout, et de se dire écoute, on en est là, et ça permet d'avancer plutôt que de se mettre la tête dans le guidon et de vouloir faire de l'opérationnel.
C'est très important ce que tu dis, parce que souvent c'est confortable, ça nous rassure, puis on a appris que travailler c'était faire, c'est très, très, très prégnant dans la culture française, donc on peut vite retourner dans l'opérationnel, alors que justement si on veut faire grandir sa boîte, il faut bosser sur d'autres choses que juste l'opérationnel. Et donc toi tu as ce rythme-là une fois par semaine où tu as une personne qui te permet de prendre ce recul.
Il y a ça, et il y a le fait de le faire avec, et ça on le fait de moins, faut qu'on se force à le faire avec William, mais il y a quand même des moments où on se dit faut qu'on se force à aller se faire un resto, une bouffe, un truc, enfin en fait sortir du boulot et se dire on parle des choses un peu plus stratégiques de la boîte, mais on se rend compte qu'il y a des semaines où en fait on se parle pas, on est en face à face, on est dans le même bureau en face et on se parle pas de la semaine parce qu'on est pris dans le...
Tu traites l'urgent, pas l'important, sur la fameuse matrice de priorisation des tâches. Ok, écoute, un grand merci à toi Tanguy, super intéressant, j'aurai encore plein de questions, mais il faut qu'on se tienne à la promesse d'une heure. Merci à vous tous aussi pour vos écoutes, votre fidélité, vos messages, vos commentaires, vos partages. Voilà, c'est pour vous que chaque semaine je partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui nous raconte comment il ou elle a fait pour relever différents challenges du quotidien de l'entrepreneuriat. Abonnez-vous à la newsletter sur commenttafait.fr pour recevoir les derniers épisodes et conseils d'entrepreneurs. Allez voir tous les épisodes sur YouTube, vous avez les épisodes entiers, vous avez les shorts, etc. sur tous les réseaux sociaux, vous avez de quoi gagner très rapidement des années d'expérience. À bientôt, ciao.
C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.